Votre radio vous propose chaque après-midi, du lundi au vendredi, 3 heures de découverte. De 13h à 16h, partez à la découverte de recettes, des femmes et des jeunes qui se distinguent. Suivez nos reportages, vie quotidienne, paroles d'enfants, regards d'avenir et points de vue des jeunes. Laissez-vous guider par des balades en zigzag, un zeste de culture et beaucoup de musique. Nous répondons également à vos questions. 13h, 16h, découverte, le cocktail de l'après-midi sur Radio Okapi.
Bien, merci à tous les auditeurs de Matadi qui nous écoutent en ce moment, Matadi, dans le Congo central. Vous êtes à Voadou, vous êtes à Belvedere, Bouima Bouima ou à Kinkanda ou dans d'autres quartiers, les autres quartiers de Matadi. Alors vous êtes les bienvenus le 25 et le 26 novembre de 9h à 12h au Flat Hotel Lydia, au Cap de Grande Production, au Capi Service et Parole aux auditeurs. C'est des moments à ne pas rater. Hein, vous êtes tous les bienvenus, sauf personne. Hein. L'invitation est lancée à tout le monde, sauf à personne. Donc ça veut dire que nous vous attendons pour ces deux grandes productions au Congo central, à Matadi. On va accueillir notre invité Jean Moupépé Liona. Comme je l'ai présenté tout à l'heure, il est spécialiste en sciences de l'éducation, il est secrétaire exécutif de la Fondation Banaté, président provincial de l'Association nationale des écoles privées agréées, à son EPA, Bandundu. Encore une fois, bonjour.
Bonjour, jeudi.
La meilleure qualité de la formation des élèves repose sur la capacité des enseignants à bien dispenser la matière pour parfaire leurs connaissances et s'adapter aux nouvelles méthodes. Ceux-ci doivent bénéficier régulièrement des séances de renforcement des capacités. Alors, quelle est l'importance du recyclage pour les enseignants et comment le faire? La première question, Jean Moupépé, pouvez-vous nous en parler davantage? Pourquoi est-il important de recycler les enseignants?
Je crois, jeudi, nous en avons déjà parlé au cours d'une émission. Je crois que nous parlions de la baisse du niveau de l'enseignement dans notre pays. Et nous avons senti que la formation initiale reçue par la plupart de nos enseignants laissait à désirer. C'est ainsi qu'il devenait impérieux de renforcer leurs capacités. Mais au-delà du renforcement de capacités, on s'est rendu compte que on ne peut renforcer que ce qui existe. Mais si ce qui existe est défectueux, ça devient compliqué. Bon, parlons du renforcement. On doit absolument renforcer les capacités des enseignants parce que tous ne sont pas formés la même année, ne sont pas formés selon les mêmes méthodes, ne sont pas formés devant les mêmes exigences. Nous sommes obligés de nous adapter à l'évolution de la science, à l'évolution du monde qui n'est pas statique. Donc, première raison pour recycler les enseignants, c'est pour qu'ils se mettent à jour, qu'ils mettent leurs connaissances à jour par rapport à l'évolution du monde, par rapport à l'évolution des connaissances. Deuxièmement, ceux qui finissent leurs études supérieures ou bien leurs études secondaires avec des lacunes peuvent les combler parce que vous vous rendez compte qu'on n'apprend pas tout à l'école. Parfois, on apprend en pratiquant un métier. Moi-même, je me rappelle que quand j'ai terminé à l'ISP, il y avait des leçons que je n'avais pas apprises à enseigner quand j'étais sur le banc de l'ISP. Mais j'ai dû apprendre en cours d'emploi. Donc, il est important, pendant que l'agent est en service, de se rendre compte de ses incapacités, de ses insuffisances, afin de lui apporter une aide pour qu'il soit à même de bien assurer sa profession. Parce que de toute façon, ce que nous visons, c'est quoi? C'est la qualité de l'enseignement. Et là où la qualité ne répond pas à ce qu'on attend, nous devons revenir en arrière. C'est ainsi que nous disons qu'il est important de renforcer les capacités des enseignants qui sont en place dans nos écoles, dans nos classes.
Et combien de fois organiser ces séances de renforcement des capacités par année, par exemple?
Autant que c'est possible. Ça ne doit pas être programmé. En principe, il faut que l'on constate les lacunes et qu'on sache comment y répondre. Parce qu'il y a une autre question. Qui organise ces formations? Qui est habilité à les organiser? À qui l'État a donné la mission de les organiser? Parce que là aussi, il y a beaucoup de polémiques. C'est pourquoi parfois, pendant l'année, on ne sait pas avoir des formations. Souvent, les inspecteurs disent que c'est la formation, c'est l'apanage de leur corps. Et alors, à ce moment-là, on bloque les écoles qui sont désireuses d'organiser des actions de formation. Et les écoles disent, non, nous avons aussi la possibilité d'organiser des formations. Et si vous voulez, venez vous associer à nous. Et l'inspection dit, pas question, invitez-nous à venir donner la formation. Alors à ce moment, ça devient compliqué. Mais en principe, nous savons que le premier inspecteur dans une classe, c'est le titulaire de classe. Dans une école, c'est le directeur chef d'établissement ou le préfet chef d'établissement. Dans une gestion, c'est le gestionnaire, coordinateur. Et tous ont l'obligation de constater s'il y a des problèmes, s'il y a des lacunes, s'il y a des insuffisances. Et ils peuvent programmer des actions de formation. Ça nous est arrivé plusieurs fois de le faire. Je me rappelle, au niveau de la Fondation Banaté, nous avions constaté que nos enseignantes de maternelle et nos éducatrices ou nos institutrices avaient beaucoup de problèmes. Et nous nous sommes référés à l'inspection provinciale qui n'avait que 3 modules de formation. Dans nos recherches, arrivés ici à Kinshasa.
3 modules seulement.
3 seulement. 3 actions de formation, 3 modules.
Qui ne cadre plus avec l'évolution, avec
les changements. Si, ça cadrait, mais 3, c'était insuffisant.
C'était insuffisant.
Quand nous sommes arrivés ici, nous avons découvert que ici.
C'était quel module? Il s'agissait de quel module?
Oh, la gestion d'une classe en termes de capacité, classe maternelle, classe primaire, l'interprétation, l'analyse et l'étude du programme national de l'enseignement maternel et de l'enseignement primaire. Donc, il y avait plusieurs modules qu'on suivait ici à Kinshasa, mais que nous n'avions pas dans notre province éducationnelle. C'est ainsi que quand on a fait les comptes, on s'est rendu compte qu'ici, il y en avait 13. Donc, il y avait 10 qui nous manquaient. Mmh. Eh bien, il fallait organiser une formation. Mais avec qui? Avec quoi? Avec quels moyens? J'ai commencé, nous nous sommes jetés à l'eau et nous avons invité pour la première fois Michel Otto, qui est actuellement à l'APE, l'Agence pour la promotion de l'éducation. Mmh. Il est venu à Kikwit avec les moyens de la Fondation Banaté. Et il est venu donner une formation. Ce qui nous a réjouis en ce temps-là, c'est l'inspecteur principal provincial, Mumpini, actuellement député national, a saisi la balle au bon. Il dit, mais un privé ne peut pas organiser une formation, ne peut pas le laisser seul comme ça. Et il est intervenu, il a donné des moyens. La MONUC, à l'époque, l'ancêtre de la MONUSCO, s'est saisi de l'affaire et a dit, non, nous ne pouvons pas laisser cet homme travailler tout seul.
On va vous donner des moyens.
Et non, ils nous ont assuré le transport des formateurs ou des enseignants de Kikwit vers Kinshasa ou de Kinshasa vers Kikwit. C'est ainsi que les formations se sont bien organisées chez nous.
Donc, nous pendant combien de temps? Une semaine? Trois jours?
Nous avons fait des modules de 2 semaines, des modules de 3 jours. Ça dépend de l'importance de la matière. Ça dépendait de l'importance de la matière qu'avait chaque module. Et nous avons donc fait venir de façon globale plus ou moins 10 formateurs qui sont venus. Et nous avons eu jusqu'à 115 personnes qui participaient.
Des enseignants de plusieurs écoles.
Des enseignants de plusieurs établissements, de Kikwit, de la périphérie, Vanga, Djouma, Bulungu, etc., qui étaient venus à Kikwit et qui ont suivi la formation. Donc nous disons, dans la formation, c'est tout le monde qui est concerné. C'est pas seulement les inspecteurs. Les gestionnaires, les enseignants, les chefs d'établissement sont concernés. Tous, autant que nous visons la qualité de l'enseignant, de l'enseignement, nous sommes partenaires et nous devons participer pour améliorer la qualité de notre enseignement.
Et au bout de cette formation, vous avez ces modules de formation, est-ce que vous avez constaté une amélioration, changement, les lacunes étaient comblées?
Oui, nous commencions par une pré-évaluation. On faisait un petit test pour se rendre compte du niveau des participants et à la fin, on organisait un autre test pour évaluer qu'est-ce qu'ils ont reçu, qu'est-ce qu'ils pouvaient améliorer. Mais ça devient difficile quand, par exemple, nous savons que souvent les gens retombent dans la routine le plus rapidement possible. Donc il faut que ces actions soient continues.
Et aujourd'hui, il y a aussi un problème. Quand vous allez voir les enseignants dans certaines écoles dans les coins reculés du pays, ils ont des vieux manuels. D'abord, ils ont pris de l'âge. Ils ont toujours les vieux manuels qu'ils ont utilisés depuis des années. Et ils n'ont pas la connexion Internet. Et ils n'ont pas des nouveaux manuels. Ils ne savent pas mettre à jour leurs connaissances.
Mon cher Jody, c'est ça la grande difficulté. La grande difficulté, c'est le manque de documentation. Heureusement, maintenant, je crois que le gouvernement essaie de faire des efforts. On essaie de fournir les écoles en manuel scolaire. Mais parfois, il y en a trop. Il est difficile de constater que dans certains coins où, qu'on ne peut peut-être pas atteindre facilement, vous entendrez un enseignant parler de l'Union des républiques soviétiques qui n'existe plus. Mais ce n'est pas sa faute. C'est parce qu'il n'a pas de documentation. Il n'a pas accès à l'Internet. Il n'a pas accès à une bibliothèque qui peut mettre des documents à jour à sa disposition. C'est ça la grande difficulté. Et c'est pourquoi nous disons, nous ne devons pas attendre des actions de formation que des inspecteurs, tout opérateur pédagogique peut apporter sa contribution pour améliorer la qualité de l'enseignement. Le regret, par exemple, nos amis de Bukavu ont des difficultés. Il y a une promotrice qui s'est rendue à Bukavu et qui a constaté qu'il y avait beaucoup de lacunes déjà au niveau de l'écriture, au niveau de la lecture. Elle a commencé un petit essai d'entraînement et tout de suite on dit non, c'est à l'inspection d'organiser. Donc c'est ça notre malheur.
Et c'est ça qui bloque le travail.
Oui, parfois. Parfois.
Mais est-ce que c'est une exclusivité de l'inspection?
Non.
De l'enseignement, d'organiser des formations.
Non. Et je me réfère au recueil d'instructions et directives méthodologiques. Je prends une première référence. Par exemple, la lettre numéro Mineden et PSP bar SG bar 80 bar 0598 88 bar 98 du 3 janvier 98 parle de la formation initiale et de la formation continue des enseignants. Et là, il donne la mission à la direction des programmes et des manuels scolaires. Quand il faut, par exemple, produire les programmes des cours au primaire comme au secondaire, c'est la direction des programmes qui est concernée. Et même quand il faut former sur les matériels didactiques, c'est la direction des programmes. Il y a toute une direction qui est chargée de ça. Mmh. Et ils ne sont pas tous des inspecteurs. Et pour la planification et les statistiques scolaires, vous avez la direction des planifications des didactiques des statistiques scolaires. Vous avez aussi l'IFSEPS. Mais vous avez, par exemple, l'instruction qui crée le CERNAFOR. Il dit que le CERNAFOR doit travailler avec des partenaires. Et quand vous allez dans les cellules provinciales de formation, vous trouverez des dossiers des centres et des écoles ou des groupes scolaires qui organisent des actions de formation. Ils déposent leur dossier comme partenaire de la formation. Mmh. C'est à ce titre-là, par exemple, que nous, à la Fondation Banaté, avions été retenus par l'inspection principale provinciale et par la MONUSCO comme partenaire de la formation. Donc, ce n'est une exclusivité pour personne. Mmh. Les inspecteurs, bien sûr, sont l'œil et l'oreille de l'État en matière d'enseignement. Mais ils peuvent se faire aider par les partenaires attitrés, les partenaires reconnus qui produisent.
Apparemment, certains ne veulent pas se faire aider.
Oh, mais ce serait une aberration. Prenons par exemple le programme national de l'enseignement maternel. Il a été produit par un privé, c'est pas par un inspecteur. Le programme national qui fait la fierté du Congo ces jours-ci, depuis 1996, a été produit par un privé. Quand vous prenez le programme national de cycle long de la menuiserie, c'est produit par des privés, pas par des inspecteurs. Vous pouvez encore prendre le cas de notre institution qui forme actuellement les enseignants de la maternelle, du primaire et des personnes vivant avec handicap. Ces programmes ont été produits par des privés. Mais ce qu'on leur demande, c'est que quand vous avez réalisé un programme, vous devez le transmettre aux services de l'État qui sont habilités à apprécier. Au niveau supérieur, c'est la commission permanente des études qui analyse et qui agrée. Mmh. Et au niveau du primaire et du secondaire, maternel, primaire et secondaire, c'est la direction des programmes qui analyse et qui étudie et qui adopte. Donc vous voyez que déjà, l'État lui-même est ouvert à la contribution des partenaires. Mmh. Mais ces agents ne peuvent pas faire obstruction pour que la formation ne passe pas.
Voilà. Donc, qui peut initier la formation continue? Vous avez dit, ce sont les gestionnaires de l'école.
La formation continue, vous avez la direction des programmes et des manuels scolaires. Vous avez la direction de la planification et statistiques scolaires. Vous avez la commission permanente des études au niveau de l'enseignement supérieur. Vous avez aussi les différentes cellules de formation de l'inspection.
Voilà. Nous allons suivre nous allons accueillir tout à l'heure un invité à Kinshasa. Il est à Kinshasa. Michel de Kinshasa, vous voulez également participer? N'hésitez pas, appelez-nous au 081 890 63 94.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30 heure de Kinshasa, Radio Capi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Nous parlons du recyclage du personnel enseignant, la formation continue des enseignants. Quelle est son importance et comment l'organiser? Michel Otto est à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour Jordi, bonjour à l'invité, mon pépé Jean, que je salue.
Bonjour Michel. On vous écoute Michel.
Ok, merci. Je voudrais partir sur plusieurs points qui ont été évoqués tout à l'heure là, notamment de l'utilisation des manuels scolaires qui sont vieux dans certains coins. C'est un problème très sérieux, très récurrent. C'est vrai que nous devons reconnaître les efforts fournis par le ministère et beaucoup de partenaires d'appui au système qui aident le pays à avoir des manuels scolaires jusqu'au fin fond du pays, d'accord? Mais aujourd'hui, il y a des manuels qui ne sont pas encore disponibles parce que la lecture et l'écriture sont devenues des branches autonomes. Mais depuis que cela existe, il n'existe aucun manuel de lecture suivant le programme national. Ça n'existe pas. C'est vrai que nous avons suggéré que les non-initiés peuvent appeler manuel de lecture, mais en réalité, ça n'existe pas par rapport au programme national qui est en vigueur. Ça, c'est un. Et deux, au niveau de la maternelle, je vous informe que depuis 2008, l'enseignement maternel a connu un changement de programme. Nous avons un nouveau programme depuis 2008, mais nous sommes surpris que pendant 3 semaines, c'est-à-dire la 7e semaine ici, la semaine qui suit, la semaine qui suivra, il y aura des formations sur l'utilisation des programmes nationaux sortis depuis 2008. Donc 7 ans plus tard, c'est maintenant que l'inspection se réveille pour organiser des formations à grande échelle sur l'utilisation du programme national de la maternelle. Moi, je me pose une seule question. Depuis toutes ces 7 années, qui font presque 2 cycles de maternelle, comment est-ce que les écoles fonctionnaient-elles? Parce qu'on nous fait voir ici que la formation, c'est l'apanage de l'inspection. Voilà que l'inspection qui se réveille 7 ans plus tard. Je pense que les choses doivent changer si réellement les textes sont dans ce sens-là. Les textes sont faits par les hommes et pour les hommes. Du coup, il y a une possibilité de pouvoir revoir cela. Et puis, lorsqu'on voit le fonctionnement de l'inspection comme tel, ils sont ouverts. Lorsque vous allez au Sénafor, le Sénafor vous dit qu'ils restent ouverts à travers avec tous les partenaires qui possèdent une expertise. Ça, c'est ce que disent les textes. Mais les gestionnaires des mêmes services, c'est comme si il y avait encore un petit problème par rapport à la situation des experts ou des partenaires par rapport à toutes ces formations. Voilà un peu ma petite contribution par rapport à l'émission d'aujourd'hui.
Merci, oui. Merci Michel Otto de Kinshasa, Jean Moupépé.
Oui, je crois que Michel a parfaitement raison. Là, vraiment, il met le doigt dans la plaie. Parce que je crois qu'à un moment donné, il a travaillé aussi dans les services de l'inspection comme agent. C'est vrai qu'il y a une grande difficulté à mettre tout le monde ensemble pour travailler dans l'intérêt de l'enfant. Parce que n'oublions pas, le bénéficiaire principal de l'action de l'éducation, c'est l'enfant. Alors je ne sais pas pourquoi nous, les adultes, nous compliquons les bidons tout simplement. Quand Michel parle de ce qui va se faire maintenant, Michel situe...
Une formation pour les
enseignants de la maternelle
qui intervient 7 ans après.
Il est même trop modeste.
7 ans après
Le programme national de l'enseignement maternel est sorti en 1996, s'il vous plaît. Il faut remonter encore plusieurs années
depuis
avant.
Depuis
96.
Et c'est maintenant qu'on
on
organise
jamais
la formation.
Organisé des actions de formation d'envergure comme on veut le faire maintenant. Et je dis ce qui est curieux. J'ai appris, je vais chercher à vérifier, on dit que les inspecteurs sont en train de passer dans les écoles pour retirer les titres obtenus par les enseignants ou les éducatrices dans les différents centres de formation pour substituer leurs documents par les documents qui vont couvrir la formation de 3 semaines. Donc, quelqu'un qui a suivi une formation pendant 9 mois, qui obtient un titre scolaire, vous voulez lui retirer le titre qu'il a obtenu
pour l'obliger
pendant 9
à
mois,
venir, oui.
Ou pour l'obliger à suivre une formation de 3 semaines. Mais c'est comme ça que nous tuons notre système éducatif. Je me rappelle lors d'une émission ici, il y a quelqu'un, un auditeur du Bas-Congo, par exemple, qui disait, nous sommes des criminels. Qui disait, il a envie de pleurer. Je ne sais pas si vous vous rappelez.
Oui, bien sûr.
Donc, Michel a parfaitement raison. Le partenariat existe, il a été instauré par l'État et nous devons respecter l'esprit des textes qui nous régissent, les textes que nous produisons nous-mêmes.
Donc le service national de formation dit une chose et son contraire. Ils disent qu'ils sont ouverts à toute expertise, mais après ils permettent pas aux autres experts de bien fonctionner.
Si j'ai bien compris Michel, il dit au niveau des responsables, il y a pas de problème.
Mais c'est au niveau des animateurs.
Des animateurs
qui en font un peu trop,
base, oui. Qui en font leur affaire personnelle. Oui. Est-ce que c'est pour une question de caillasse? Ça je ne sais pas.
Patient Paul nous appelle de Kinshasa. Bonjour Patient.
Oui, bonjour, aujourd'hui, ainsi qu'à notre invité.
Nous parlons de l'importance du recyclage des enseignants. Oui, qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Oui, à propos du sujet du jour, j'aimerais donc savoir, c'est une question de curiosité. Quand un professeur ou un maître qui a suivi une formation, devant une salle de classe, il est complexé. Majoritairement, donc, quand tu disais, des enfants, des grands hommes du monde, avec est-ce qu'un tel instituteur peut assimiler bien sa connaissance aux autres, du fait qu'il est, dès le départ, dans un esprit dans un esprit qui est complexé. Est-ce qu'un tel instituteur peut espérer donner ou assimiler une matière donc que les enfants peuvent bien maltraiter et puis devenir des hommes dans le monde?
Et pourquoi il est complexé, patient?
Oui, du fait que donc il se retrouve devant des enfants qui, par exemple, donc, ont des téléphones de dernière marque. Un enfant donc, qui a des chaussures donc, de dernière marque, tout est en luxe. Et l'enseignant se retrouve devant un tel enfant. Tellement donc, lui possède vraiment donc, des chaussures qui ne sont pas vraiment donc, enviables et tout. C'est-à-dire donc, son habillement vraiment, donc, reste toujours en dernière position face aux enfants donc, qui est lui-même
en 5 minutes, en 4.
C'est ça,
un peu donc, d'accord, merci. Jean-Pépé.
Je crois que patient Paul peut être tranquille. Je lui recommanderais de chercher à lire un livre que le professeur Moulamoko a préfacé, L'auto-perception et la perception de l'enseignant. Quand un enseignant est complexé, c'est que lui-même ne se perçoit pas bien. De toute façon, dans notre société, on ne considère pas l'enseignant depuis un certain nombre d'années. Mais si lui-même se perçoit comme un homme important et un homme qui peut apporter quelque chose à un élève, il ne peut pas être complexé, quel que soit le rang ou la provenance ou la famille de l'enfant. Parce qu'en principe, lui détient une connaissance dont l'enfant a besoin. Donc c'est lui qui se trouve en position de supériorité qui doit conférer la connaissance à un élève. Pourquoi il devrait être complexé? C'est que peut-être lui-même a des lacunes et il ne maîtrise pas les cours, il pense qu'il peut être tout le temps être contredit par les élèves. Il arrive comme ça dans une situation de classe qu'une leçon qui n'a pas été bien préparée vous mette mal à l'aise, vous enseignants, quand déjà les enfants se mettent à vous apporter des correctifs sur ce que vous leur transmettez. Là, évidemment, ça vous diminue. Mais si vous avez pris le temps de bien préparer votre leçon, quels que soient les apports des élèves, vous les intégrez sans complexe dans votre transmission, même si vous-même peut-être n'aviez pas prévu, vous récupérez et vous continuez.
Jean Moupépé, quels sont les avantages que l'on tire lorsque l'enseignant est régulièrement formé, régulièrement, disons, mis à jour par rapport à ses connaissances?
D'abord, pour lui-même, son travail devient facile. Il le fait avec plus d'aisance. Parce qu'il sait où chercher une information et il sait quelle information il peut donner à quel niveau de ses élèves. Il peut avoir une masse d'informations, mais il ne doit pas toutes les communiquer comme ça sans tenir compte du niveau des enfants, de leur âge ou bien de ce que le programme prévoit. Donc, l'enseignant tire des connaissances qui peuvent lui permettre d'intervenir judicieusement dans sa classe. En deuxième position, il aura des enfants qui sont bien formés et qui obtiennent les informations nécessaires pour leur vie. Parce qu'ils n'apprennent pas que pour l'école, ils apprennent pour la vie. Parce que l'école est une institution pour la socialisation des élèves. Alors les connaissances que les enfants reçoivent doivent leur être utiles dans leur vie en classe et même dans leur vie future. Surtout par exemple pour les connaissances reçues à la base, au primaire. Donc un enseignant qui a été recyclé se trouve un homme heureux, qui s'enrichit et qui sait où il peut continuer à puiser les matières pour rester à jour dans sa classe, dans son école.
Mmh. Et les enfants sont bien formés.
Bien formés. Mmh. Et contents de leur enseignant.
Voilà. Donc, certains inspecteurs puissent changer un peu de comportement pour laisser tout ce qui vient avec des bonnes initiatives de formation des enseignants de pouvoir le faire.
Oui, parce qu'au départ, un inspecteur est un enseignant. Et on n'est pas inspecteur. On commence par être enseignant, peut-être on passe par le poste de chef d'établissement et puis ensuite on devient inspecteur. Donc on est dans le cycle de formation de l'enseignement. Mmh. Et donc, souvent ceux qui font des problèmes, ce sont des complexés eux-mêmes. Ils se présentent devant un enseignant, ils veulent montrer que je suis ton supérieur. Mais non, nous faisons un travail de complémentarité. La formation, c'est un domaine de complémentarité, un domaine de collaboration entre les différents opérateurs pédagogiques, qu'ils soient gestionnaires, qu'ils soient inspecteurs, qu'ils soient enseignants. En fait, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de match. Nous sommes là pour former. Former qui ? L'enfant. Et si toutes nos actions contribuent à faire acquérir cette connaissance aux enfants, ben, nous pouvons que nous réjouir. Mmh. Et alors, à ce moment-là, on s'apprécie à sa juste valeur et chacun dit, oui, l'inspecteur m'a apporté une très bonne information et l'enseignant peut apporter aussi une bonne information à l'inspecteur.
Et vous avez dit, tout dépend des besoins. Des besoins exprimés.
Tout dépend des besoins exprimés au niveau de la classe d'abord, parce que tout part de là. Et pour un chef d'établissement, quand il fait la visite des classes, quand il observe ce qui se passe dans les classes, il relève des lacunes. Parfois, quand il écoute les enseignants qui vont lui dire « dans telle leçon, j'éprouve telle difficulté », il prend note. Et ça peut être constaté par l'enseignant qui va vers le chef d'établissement, ça peut être constaté par le chef d'établissement quand il passe dans les visites des classes, ça peut être constaté par les inspecteurs. Et alors, à ce moment-là, on monte des actions de formation pour pallier à ce qu'on aura constaté comme difficulté, comme lacune.
Bien, nous avons en ligne Docteur Richard de Kinshasa. Docteur, bonjour.
Bonjour, Jody. Bonjour à tout le monde et à l'invité.
On vous écoute.
Oui. Oui, le recyclage est très très important, le recyclage des enseignants. Non pas seulement en faveur de ce que l'invité a dit, je peux aussi ajouter pour que les erreurs ne soient pas recyclées dans le comportement de la communauté. Je donne un exemple. J'ai vu dans les livres de botanique actuels, la notion de nettoyage de feuilles avant de les couper pour les préparer, donc les légumes, n'existe pas. Or, à notre époque, on nous avait dit que les légumes, avant de les couper, il faut les laver. Ne lavez plus les légumes coupés. Mais c'est ce que font les femmes de Kinshasa, je crois, ou de la RDC, quand elles veulent préparer le fond bois. Elles achètent le fond bois coupé, elles nettoient le fond bois coupé pour les préparer. Le contenu des fond bois reste dans l'eau. Ça, elles ne voient pas. Alors, à quel niveau il faut agir? C'est au niveau aussi de l'enseignement, pour qu'on remette en sellette cette assertion qui dit que les légumes, avant de les couper, il faut les laver. Mais le recyclage, c'est pas seulement pour élever le niveau de l'enseignement, mais c'est aussi regarder le comportement de la communauté. Vous savez aussi que, au niveau de l'histoire, moi, en étudiant le portugais, j'ai compris que, quelque part, Diego Carão était une injure, parce que ce monsieur avait dit que les royaumes Congo étaient organisés. Dire ça aux blancs à cette époque-là, mais vous êtes le dieu de chien, c'est que c'est le fils Diego Carão. Mais on continue à nous enseigner, que, ou à enseigner à nos enfants, celui qui avait trouvé l'embouchure du fleuve Congo, c'était Diego Carão. Alors que les Baoyo et les Solongo étaient là. Donc on doit corriger ça, même si on gardait le nom. Mais il faut dire que c'est pour les Occidentaux. Merci beaucoup.
Merci docteur Richard.
Je remercie le docteur Richard. Mais je crois que le docteur Richard m'a rejoint parce que j'ai dit tout à l'heure, nous ne formons pas que pour la classe, nous formons pour la vie aussi, pour l'intégration dans la société. Mmh. D'ailleurs, quand je prends le domaine de la santé, je me rappelle à la conférence nationale sur les droits de l'homme, quand j'allais saluer le ministre de l'éducation, à l'époque c'était le professeur, le nom va revenir. Mmh.
Koutoumissa
Bekiota. Alors, il faisait une remarque sur l'enseignement privé. Mmh. J'ai dit, mais excellence, vous savez que maintenant vous nous réunissez, nous étions 500, je crois, venus de toutes les provinces du pays et même de la diaspora. Chaque jour, nous recevions un per diem pour notre participation à cette conférence au Palais du Peuple. J'ai dit, mais maintenant vous dépensez beaucoup d'argent, vous nous réunissez pour nous parler de la défense de nos droits. Mais en Europe, ça ne se fait pas. Le calendrier vaccinal, pour rester dans le domaine du docteur Richard, Maintenant, vous faites des campagnes de sensibilisation pour dire nous allons vacciner des enfants sur la polio, pour, contre la polio, contre ceci, contre cela. Mais le calendrier vaccinal, ça prend à l'école en Europe. Il dit, mais effectivement, vous avez raison. Jeter un sachet dans la rue, ça s'apprend à l'école. Ce sont des comportements, effectivement, que nous devons enraciner dans la conscience, dans l'intelligence de nos enfants à partir de l'école. Là, je ne vais pas abonder dans le sens du père Équois pour dire que l'école n'a pas été trahie. Je pense que l'école a été trahie. Avec quel budget? Maintenant, peut-être qu'il y a une hausse. Avec quel type?
Mais aujourd'hui, pour organiser même la formation continue, il faut un budget.
Oui, bien sûr.
Ça va venir d'où? Est-ce que les écoles ont les moyens de le faire?
Actuellement, ce sont les écoles qui peuvent s'organiser pour les organiser. Mais j'avais dit au cours d'une précédente émission que c'est là où le bât blesse. L'État, par exemple, donne aux écoles primaires, je crois, 45 000 francs le mois pour le fonctionnement, mais les actions de formation organisées par l'inspection raflent tout cet argent parce qu'une action de formation peut voir ses supports coûter de 15 à 25 000 francs. C'est ça qui limite aussi la possibilité. Donc, il faudrait peut-être que l'État revoie ses dispositions. Mais au niveau de l'enseignement privé et au niveau de l'enseignement confessionnel, même dans certaines écoles officielles, les écoles s'organisent pour mettre un peu de moyens de côté pour faire former le personnel. À titre d'exemple, pendant ces vacances, la Fondation Banaté a envoyé ses enseignants en formation à Kinshasa. Vous savez combien ça coûte pour un participant dans certains centres? Parfois, ça va jusqu'à 300 dollars. Mais il faut faire le sacrifice.
Il y a également les manuels aussi qu'il faut
acheter. Bien sûr, il y a tous les supports qui doivent accompagner la formation. Donc, le grand problème, c'est le financement de l'éducation, formation y compris. Même dans les séminaires de recyclage.
Du recyclage. Lucien Bouyou, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
Bonjour à tous les auditeurs et bonjour à l'invité.
Bonjour, on vous écoute.
Bonjour Lucien.
Merci beaucoup. Mais j'ai trois préoccupations. Nous parlons bien sûr sur le recyclage des enseignants. Mais moi, je pense qu'avant de parler du recyclage, si on doit recycler quelqu'un, c'est quelqu'un qui a reçu quand même une formation de base consistante. Mais dans la plupart des cas, ce que nous constatons est que ceux qui terminent et ceux qui sont habilités d'aller dispenser cours du côté primaire, j'y vais beaucoup plus du côté primaire et du côté maternel, ces gens qui terminent n'ont pas reçu une formation base adéquate. Avant qu'on ne puisse même parler de quoi ça, du recyclage, si quelqu'un n'a pas de base, le recyclage n'a pas raison d'être, selon mon... Ça, c'est mon avis. Deuxièmement, nous avons un problème de quoi ça par rapport au niveau de l'enseignement. Nous avons le cas, par exemple, on a produit récemment quoi ça, la loi 4 enseignement. Il y a plusieurs programmes qui ont été produits. Il y a des enseignants ou des écoles qui aujourd'hui, il y a un programme de l'enseignement primaire de 2011, mais il y a ceux-là qui utilisent encore un programme de 2003 parce qu'ils ne sont même pas informés qu'il y a un programme de 2011. Ils utilisent une prévision de matière de 2001, alors qu'ils ne sont pas informés que les choses ont évolué. Et tout ça, c'est à la charge de quoi ça, du gouvernement ou bien des services techniques de l'enseignement qui devaient vulgariser les différents documents, les différentes innovations qui arrivent au moment opportun. Et quand c'est là, déjà dans la ville comme Lubumbashi, il y a des écoles qui utilisent des programmes de 2003. Je me pose la question, ceux qui sont dans les recoins de quoi ça de la province, qu'est-ce qu'ils utilisent comme programme? Peut-être qu'ils n'ont même pas de programme. Et troisièmement, c'est au niveau de quoi ça des partenaires qui viennent intervenir. Parce que là, je suis un responsable d'une ONG qui travaille dans l'éducation en milieu rural. On voit qu'il y a beaucoup de barrières par rapport à l'inspection. L'inspection veut prendre vraiment le monopole de quoi ça du recyclage
des enseignants.
De l'enseignant, alors que se prouvait que le financement au niveau de ce secteur-là, il est très faible. Il y a les partenaires qui viennent avec ce financement pour essayer d'appuyer surtout les écoles qui sont dans les milieux ruraux, qui ne bénéficient pas de quoi ça, de la même formation continue comme ceux-là qui sont dans les milieux urbains. Mais ce que nous constatons est que les inspecteurs, quand ils vous trouvent sur le terrain en train de faire ce travail, ils cherchent à mettre des bâtons dans les roues pour dire qu'ils sont les seuls
habilités
à pouvoir recycler les enseignants. Et ce qui est grave, même quand vous êtes en train de le faire, il y a beaucoup d'inspecteurs qui sont dans les milieux ruraux qui sont aussi informés, même de la publication d'une loi cadre, même de la publication d'un nouveau programme. On se pose la question, est-ce qu'il y a une bonne coordination au niveau de quoi ça, des services techniques et du ministère de quoi ça, de l'éducation.
Merci, hein, Lucien.
Je voudrais avoir quand même la lecture de quoi ça, de l'invité là-dessus. Merci beaucoup.
D'accord, merci. Vous êtes coordonnateur d'une ONG qui s'occupe de l'enseignement, de la formation des enseignants en milieu ruraux. Jean Moupépé.
Je crois que Lucien nous a pris en cours d'émission. Nous avons évoqué dans les minutes qui précédaient ces difficultés de l'inspection qui s'est constituée en barrière. Nous insistons, parce que j'ai des échos de Lubumbashi, de Bukavu, de Walikale, nous insistons que la formation, c'est un domaine de collaboration entre les différents opérateurs pédagogiques. Les instructions sont claires. Lisez le recueil d'instructions et directives officielles, que ça soit l'ancienne édition ou la nouvelle édition, vous verrez qu'il y a des dispositions qui indiquent que nous devrions travailler dans ce sens. Et d'ailleurs, si vous contactez la cellule provinciale de formation de votre inspection provinciale, vous verrez qu'il y a possibilité de déposer votre dossier comme partenaire de la cellule de chargée de la formation. À ce titre, vous informez l'inspection de toute action que vous voulez mener et je crois que vous trouverez les portes ouvertes. Mais c'est vrai, les difficultés, c'est au niveau des exécutants, au niveau de ceux qui sont sur terrain, pas souvent au niveau des autorités. J'ai évoqué tout à l'heure les cas de l'honorable Mumpini, qui était IPP à Bandundu 2, et qui appuyait toutes les actions de formation organisées par les différents centres qui existent à Kikwit. En ce qui concerne le programme...
Il dit comment parler du recyclage des enseignants, qu'il y a certains qui n'ont même pas de niveau, qui n'ont pas une formation de base, alors comment parler du recyclage?
Je vais y arriver jeudi, parce que nous en avons parlé au cours de l'émission passée.
Oui.
Mais en ce qui concerne le programme, ce que j'avais oublié de dire, c'est que parfois aussi le gouvernement met le programme en avant, mais les supports que les enseignants doivent utiliser ne suivent pas. Alors vous vous retrouvez avec un programme, un nouveau programme, sans support. Et ce programme va rester dans les tiroirs, parce que pour le mettre en application, il faut qu'il ait ses supports, que les enseignants soient formés, que les enseignants aient des documents qu'ils peuvent utiliser pour transmettre les matières aux enfants. Quant au niveau de base, nous l'avions dit et nous ne cesserons pas de continuer à le dire. C'est ça qui nous a amené à créer l'Institut supérieur normal Banaté à Kikwit. C'est l'unique pour le moment pour tout le pays et même pour toute l'Afrique subsaharienne. Nous savons que ceux qui terminent les humanités pédagogiques ont beaucoup de difficultés à faire leur travail. C'est pourquoi nous avons dit, nous nous adaptons à la situation réelle actuelle dans le monde. Vous ne pouvez pas, dans certains pays occidentaux, sortir des humanités, aller enseigner. Vous devez faire le niveau Bac plus 1, Bac plus 2 ou Bac plus 3. Nous nous sommes adaptés pour notre pays et c'est pourquoi le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire a agréé le programme que la Fondation Banaté a présenté le 6 novembre 2013. Et cette institution est maintenant à sa troisième année de fonctionnement. Cette année, nous allons proclamer la toute première promotion du pays comme spécialiste gradué en enseignement maternel, en enseignement primaire et en enseignement pour personnes vivant avec handicap. C'est une grande première, mais nous devons faire cet effort-là. Le niveau de base de beaucoup de nos finalistes de pédagogie est lacunaire, oui, laisse à désirer.
Bien, merci à Jean Moupépé Liona, secrétaire exécutif de la Fondation Banaté, directeur général de cet institut supérieur normal Banaté et président provincial de l'Association nationale des écoles privées agréées à ce départ, Bandundu. Merci et bonne journée.
C'est moi qui vous remercie jeudi. Peut-être qu'on se retrouvera prochainement.